Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Bruno Bonnel, secrétaire général pour l'investissement en charge de France 2030. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Boursorama. On a eu ce chiffre hier, enfin ce baromètre. La France a gagné des usines en 2023, 57 nouvelles usines ouvertes contre 39 en 2022 selon nos baromètres de l'État qui a été donc lancé hier. On ne peut que s'en réjouir bien sûr. Est-ce qu'on prend en compte aussi les fermetures? Et sachant que si on prend en compte les agrandissements d'usines, le chiffre est beaucoup plus élevé.
Alors, oui, évidemment qu'on prend en compte les fermetures, c'est un chiffre net.
Ouais.
Il faut surtout rappeler ce qui se passait avant. C'est qu'avant, on avait la destruction nette d'usines en France. Ouais. C'est-à-dire que là, quand on voit 39, puis 53, puis probablement l'année prochaine une centaine, on s'aperçoit qu'on est bien en train de concrètement réindustrialiser notre pays, mais pas l'industrialiser à la Zola. Pas refaire des usines où les conditions de travail sont horribles, où il n'y a pas une bonne qualité de travail, où on est mal payé. C'est exactement l'inverse. Les usines d'aujourd'hui, on mange par terre, on est bien payé, il y a des horaires flexibles.
On mange par terre, c'est une expression évidemment. C'est
on propre. Mange par terre, ça veut dire que c'est propre, c'est
oui.
pas, c'est la qualité à l'usine est bonne et on travaille dans des belles conditions. Et j'en visite suffisamment à travers la France pour témoigner du fait que les gens y trouvent un bon salaire, ils trouvent des conditions de travail qui sont plus qu'acceptables. Et également,
pourquoi est-ce que ça attire pas plus que ça les jeunes d'aller
travailler en industrie ? C'est une vraie question et qu'il faut se la poser profondément parce que vous voyez, tout le monde veut changer le monde, mais qui veut se relever les manches ? Parce qu'à un moment donné, il va falloir que dans cette réflexion que mène l'État dans soutenir l'industrie, relancer cette industrie d'innovation, cette industrie du futur à base de décarbonation, limitation de l'empreinte carbone, il faut réattirer, réenchanter l'industrie. Et ça passe par un discours, une espèce de un discours permanent dès l'école. Sur le fait que non, on n'est plus chez Zola, tout comme en agriculture, on n'est plus chez Peggy, et tout comme à l'école, on n'est plus chez Ferry. Le 19e siècle est derrière nous, on est devant une révolution, une nouvelle révolution industrielle. On n'est pas en train de regarder celle d'avant.
Ouais. On se félicite encore une fois de l'ouverture des usines en net, 39 encore une fois, 57 en 2023, 180 je crois, j'ai en tête, si on en compte les agrandissements après. Et on sait que c'est un chantier prioritaire, la réindustrialisation pour le chef de l'État. Mais quand est-ce que tout ça va se traduire dans les chiffres macroéconomiques ? La production industrielle, le commerce extérieur, l'emploi. Sur la production industrielle, j'ai regardé, en février 2024, on est juste revenu au niveau de 2015.
Mais oui, parce que ça prend du temps. Parce qu'on ne fait,
ça,
pas,
sujet, c'est que ça
on ne fait pas 50 ans de désindustrialisation, on ne les rattrape pas en 3 jours. On ne les rattrapera pas en 3 ans, on va les rattraper sur une dizaine d'années. C'est pour ça que l'objectif clairement affiché dans notre mission, c'est France 2030. France 2030, c'est effectivement un moment où...
Et c'est là où on le verra dans les chiffres
macroéconomiques. Oui, parce que nos objectifs sont clairs. 2 millions de véhicules électriques fabriqués en France en 2030, c'est l'objectif sur lequel nous sommes. Et nous sommes sur cette trajectoire, ça devient effectivement du matériel, un impact sur le PIB, etc. Un rapport montrait que le plan France 2030, globalement, à partir de 2030, il a un impact d'au moins 1% sur le PIB. Donc on va avoir une dynamique qui va être assez extraordinaire. Il faut le temps de mettre...
Il sera rentable pour l'État, ce plan ?
Alors, ce plan, c'est assez magique. L'État gagne un peu toujours entre la TVA, les cotisations sociales et les impôts sur les sociétés. On voit l'argent qui revient dans les caisses de l'État. La planification actuellement des économistes, c'est entre 2028 et 2029. C'est-à-dire qu'en une petite dizaine d'années,
ouais.
C'est un plan qui retombera sur ses pattes. Et donc, ce ne sont pas des dépenses, ce sont bien des investissements avec un retour sur investissement.
Sur les emplois industriels créés, j'ai ce chiffre, 130 000 emplois industriels créés depuis 2017 en France. C'est du net encore, j'imagine, c'est
oui,
du net. C'est honorable, 20 000 par an. Il faut se rappeler qu'on en détruisait encore avant, donc c'est ça le...
Mais c'est ça, c'est le retournement qui est important, c'est ce point d'inflexion qui est important. C'est pour ça que quand je lis des articles qui disent « Ah, l'industrialisation fait pchit » ou que sais-je...
C'est vrai qu'il y a beaucoup d'articles qui écrivent ça. Hein.
Mais oui, parce qu'en fait, vous savez...
Qu'est-ce que vous répondez ?
Mais parce que quand on pointe la lune, il y en a beaucoup qui regardent le doigt. La distance est encore à parcourir. C'est-à-dire qu'à force de faire des photos instantanées comme si on était dans un business de software à 3 mois de retour sur investissement alors qu'on est dans du dur, du capé, de l'usine, de la machine-outil, de la robotique, eh bien, ça va prendre du temps. Il faut arrêter de crier à l'échec avant même qu'on ait commencé le match. Et je pense que c'est les mêmes qui, dans quelques années, diront bah, finalement, c'était un plan qui a marché.
On aurait dû mettre plus.
Et on aurait peut-être dû mettre plus.
Bon, alors en même temps, l'actualité, on a vu que TSMC a choisi d'ouvrir une usine en Allemagne. Le chinois BYD, ce sera a priori la Hongrie. Est-ce que la France est compétitive dans cette course aux gigafactories ? C'est pas le... Dans France 2030, il y a des gigafactories, puis il y a des jeunes pousses, il y a de tout. Hein.
Alors, il y a deux choses à dire là-dessus. D'abord, ne pas faire n'importe quoi avec l'argent qu'on nous a confié. Quand effectivement l'Allemagne met des chiffres qui sont des nombres qui sont à deux chiffres pour attirer les investisseurs, nous ne le faisons pas. On parle de 10 milliards pour un Tesla, on parle de chiffres similaires pour les sociétés que vous avez.
Pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'on n'a pas les moyens?
Mais non, mais on ne le fait pas parce qu'on fait des choix. 54 milliards sur autant de domaines que couvre France 2030, ça veut dire qu'on fait des choix et on ne fait pas les choix de tout mettre nos œufs dans le même panier.
Certains vous diront, c'est du saupoudrage, mieux vaut aller avec les leaders, les BYD, les Tesla, avec...
Oui, eh bien moi je leur répondrai que devenir le leader dans l'hydrogène décarboné, c'est un objectif sur lequel on a mis 3 milliards. Doubler le nombre de chips qu'on fabrique en France, c'est un objectif sur lequel on a mis les puces, on a mis 2 milliards également. C'est pas qu'on y va, on n'y va pas avec le dos de la cuillère, mais on y va avec quelque chose de raisonnable entre la participation de l'État et l'effort privé qui va...
C'est assez, 2-3 milliards, c'est beaucoup d'argent, mais quand on voit ce que mettent les Chinois, les Américains...
Certes.
En même temps, est-ce qu'il faut comparer la France aux États-Unis? Je ne suis pas sûr non plus. Hein.
Exactement. Il y a des combats qui sont continentaux. Moi, j'aimerais bien qu'on compare globalement les investissements européens avec les Chinois et les Américains.
Ce que font chaque pays, l'Italie, l'Allemagne. Et on peut le faire.
Mais on pourrait très facilement le faire. Simplement, chaque pays joue sur une espèce de souveraineté locale. Mais globalement, le plus important de tout ça, c'est que pour aller à ce match européen, il faut qu'on soit très fort sur notre territoire. Et on démontre aujourd'hui, chaque jour, que dans tous ces domaines, le quantique, l'hydrogène, le petit nucléaire, les lanceurs spatiaux, le président vient d'annoncer des nouveaux candidats, on a eu quand même 11 sociétés françaises qui se sont portées candidates sur notre appel à projet de lanceurs spatiaux. Ça veut dire qu'il y a un potentiel en France.
Il y a de la place par rapport à SpaceX, il y a de la place par rapport...
Mais bien sûr qu'il y a de la place, parce que l'espace, c'est un petit peu comme à l'époque de Christophe Colomb, l'Amérique. C'est-à-dire qu'on sait très bien que sur les 30, 40, 50, 100 prochaines années, la conquête spatiale, elle sera déterminante pour l'homme. C'est un petit peu ça. On est tellement dans cette tyrannie du court terme, cette tyrannie du retour sur l'investissement à très court terme, qu'on en a oublié que... S'il n'y avait pas des gars en 1820 ou en 1850 qui avaient fait des chemins de fer, qui avaient fait des centrales hydroélectriques, eh bien, on n'aurait pas eu la révolution industrielle. On est dans ce moment de moi que j'appelle la révolution industrielle, c'est-à-dire cette nouvelle étape de la révolution industrielle dans laquelle les opportunités sont légion. Mais il faut apprendre un peu la patience. Il faut arrêter de chercher à 3 mois.
Avec beaucoup d'objectifs, il y a 8 objectifs, c'est ça, 8 ou 10?
Une dizaine d'objectifs.
Est-ce qu'il ne fallait pas, comme je crois que c'est le Royaume-Uni qui a opté pour moins d'objectifs, avec, peut-être en mettant plus d'argent sur moins d'objectifs? Ça peut se défendre aussi comme...
Les deux stratégies se défendent. Moi, je dis simplement qu'à un moment donné, on ne pourra pas décrocher de l'innovation dans certains secteurs stratégiques. Le Royaume-Uni fait des choix, il faut les respecter. Il en change régulièrement, accessoirement, de ses choix, parce que c'est un peu au fil de l'eau. L'IA vient à la mode, on bascule sur l'IA. Donc, moi, je me méfie aussi des choix de conjoncture. Je pense que c'est systémique, qu'il faut à la fois générer de l'énergie. C'est ce que nous faisons avec l'hydrogène, avec le nucléaire, l'énergie qui soit décarbonée. Il faut décarboner nos industries, ça doit être une volonté forte de l'écologie derrière ça. Et puis, il faut de l'innovation dans plein de domaines.
Il y a assez d'IA, il y a assez d'argent fléché vers l'IA dans ce plan.
L'argent fléché vers l'IA, elle est à l'intérieur du plan. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on travaille sur les satellites, par exemple, on met de l'IA. Quand on travaille sur l'agriculture, on met de l'IA, parce qu'on observe des évolutions de plantes ou on fait des nouvelles générations avec l'IA. Donc je pense que l'IA devient quelque chose qui infiltre la totalité de l'innovation et clairement, aujourd'hui, est une part importante du plan France 2030.
Il n'y aura pas de coupe budgétaire pour le plan France 2030. C'était le 10 mars. Depuis, il s'est passé des choses. Seulement 15 jours, vous me direz, c'est Roland Lescure, ministre de l'Industrie, qui a dit ça. Sauf que depuis mardi, on a eu les chiffres définitifs du déficit public français, 5,5%, on l'a largement commenté ici et ailleurs. Des économies ont été annoncées déjà par le gouvernement, 10 milliards cette année, 20 milliards supplémentaires. Bruno Le Maire dit bien, peut-être qu'il y en aura plus d'économies à faire cette année. Est-ce que vous avez la garantie, en plus haut lieu, qu'on ne rabotera pas, ni cette année, ni l'année prochaine, sur le plan France 2030?
Et le plan France 2030, il a été pensé sur 5 ans, voté par le Parlement, et il est dans le dur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour ouvrir les guillemets, raboter le plan France 2030, il faudrait retourner devant le Parlement, ce qui n'est pas d'actualité.
Donc pas de coupe budgétaire, pardon de dire les choses.
Mais non, il n'y a pas de coupe budgétaire, parce qu'il n'y a pas de coupe budgétaire dans les investissements d'avenir. Et les ministres ont été très clairs par rapport à ça.
Donc il n'y aura pas de coupe budgétaire dans le plan France 2030, ni cette année, ni l'année prochaine?
Il n'y a pas de coupe budgétaire, ni cette année, ni l'année prochaine, ni même l'année d'après. C'est une dynamique. Par contre, ce qu'on aimerait, c'est que l'investissement privé regarde de près France.
Quand vous mettez 1 euro, quand l'État met 1 euro, c'est 1,7, 1,8.
Aujourd'hui, on est 1,5.
1,5. C'est pas assez? C'est quoi la norme? Comment on explique ça d'ailleurs?
Alors, il n'y a pas de norme, mais c'est certainement pas assez. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on aille beaucoup plus loin. faudrait qu'on soit à 1 pour 3, 1 pour
4. Si le privé ne vous suit pas, c'est qu'il n'y croit pas.
C'est pas qu'il n'y croit pas, c'est que le privé, il est sur une espèce de rentabilité. Vous savez, il y a une espèce d'angoisse qui est aujourd'hui due à plein de facteurs exogènes qui fait que les gens disent « Ouh là là, vous voyez bien que l'épargne est en train d'exploser parce qu'on ne sait pas ce que nous réserve demain. Ah » ouais. Ce que nous réserve demain, on le fabriquera avec l'innovation.
Avec ce qu'on fait aujourd'hui.
C'est qu'on n'est pas en train de dire « on ne subit pas demain, on construit demain ». Donc il faut que les investisseurs privés comprennent que c'est bien dans ces nouveaux métiers, l'hydrogène, l'espace, l'exploration des fonds sous-marins, etc., que sont là les réserves de grandes plus-values de demain. C'est, vous savez, moi je suis un chef d'entreprise des années 80. Quand je partais sur les routes pour vendre le premier service internet, non mais le premier service internet Infonie auprès des investisseurs français, tout le monde me regardait en disant mais de quoi vous nous parlez, Monsieur Bonnel? C'était en 1996, c'est-à-dire avant le boom internet. Après, il y a eu la magie du dot-com. Aujourd'hui, il y a un peu la magie de l'IA. Dès qu'il y a IA quelque part, les gens se ruent en disant ça va être bien. Mais l'IA, c'est totalement dépendant de l'évolution des autres métier. Et donc, c'est-à-dire qu'il faut soutenir toutes ces nouvelles énergies, il faut soutenir ces nouveaux projets. Et quelquefois, effectivement, dans un portefeuille de risque, accepter qu'il y en a une partie qui va aller sur le hardware va devenir quelque chose d'important. C'est une grande différence d'avant avec l'Allemagne, avec l'Angleterre, avec les États-Unis, avec la Chine, et on en voit les conséquences.
Je reviens sur ce que vous avez dit tout à l'heure, Bruno Bonnel, sur le fait que ça va rapporter donc, au budget de l'État à partir de 2000. Non, c'est rentabiliser ce plan.
Alors non, le remboursement global d'un plan de 54 milliards par rapport aux retombées TVA, cotisations sociales, impôts sur société, c'est autour de 2028-2029, c'est ce que disent les économistes. Ils ont fait des calculs très savants avec des abacs compliqués. Ça. Mais en dehors de ça, ce plan, dans le courant, c'est-à-dire toutes les années, cette année par exemple, il a rapporté 800 millions.
Comment il a rapporté 800 millions?
Bien parce qu'il y a une partie des investissements qui sont en subvention, une autre qui est faite en avance remboursable, donc on récupère de l'argent qu'on a confié à des entreprises qui ont réussi, et puis il y en a une autre en fonds propres, et on n'est pas un mauvais investisseur en fonds propres, et quand on fait des sorties, comme on dit, cet argent remonte dans les caisses de l'État. Donc globalement, c'est un plan qui a une dynamique et qui permet de régulièrement, il est très évalué, il est très suivi, je vous rassure, là les services du ministère de l'économie et des finances sont très précis là-dessus, et ce qui justifie qu'on peut l'expliquer à nos parlementaires pour qu'ils votent ces crédits importants.
Voilà, sur 54 milliards, la moitié a été engagée.
31 milliards aujourd'hui.
31, alors, c'est 31.
31 aujourd'hui, milliards. Et j'ai regardé le chiffre juste avant de venir vous voir.
Très bien, 31 milliards. Et vous déboursez 7 milliards par an, j'ai vu.
Oui, parce que si vous voulez, un lissage des projets, c'est 3 ans à peu près.
Et en fonction de l'état d'avancement du projet, vous décaissez l'argent.
Bien sûr, quand vous avez une usine, ça prend 3-4 ans à évoluer, donc le décaissement se fait progressivement. Donc je pense qu'on aura 7 milliards là, il y aura un petit pic qui va aller vers 2028 ou 2027-2028 où on va monter, puis après le plan s'éteindra logiquement. Quand on arrivera au bout de tous les engagements des entreprises.
3500 projets ont été financés, j'ai eu le chiffre.
Ouais, 3007.
3007, évidemment.
Ouais, des chiffres.
3700.
C'est 3700.
Dont 60% de PME. Et j'insiste là-dessus parce que pendant longtemps, on a reproché aux grands plans d'investissement, il y en a d'autres avant le vôtre, sous Nicolas Sarkozy, sous François Hollande, de financer essentiellement les grandes entreprises. 60% de PME.
60% de PME, mais et aussi 60% territorial en province, hors Île-de-France.
Certains vous diront 40% en Île-de-France, c'est trop.
Oui, alors peut-être, mais enfin, quand on voit le poids, si vous voulez, économique de l'Île-de-France par rapport au reste du pays, moi, déjà, l'habitude était qu'une grosse partie aille en Île-de-France. Là, la dynamique qui est intéressante, c'est qu'à Aurillac, vous avez un leader mondial de la fermentation qui fabrique des produits, des médicaments à partir de bactéries. À Béziers, vous avez une société qui fabrique des piles à combustible, c'est-à-dire l'hydrogène qui devient de l'électricité pour les moteurs. À Belfort, vous avez des gens qui font de l'électrolyse. À partir de l'eau et de l'électricité, ils fabriquent de l'hydrogène. Nous avons...
Continuez encore, c'est hyper intéressant, parce qu'en fait, on parle beaucoup macro, mais on donne vraiment des exemples de boîtes. Il y en a d'autres encore comme ça. Ce dont vous êtes fiers, c'est que
vous
faites
un bilan. À Lyon, vous avez une société qui travaille sur ce qu'on appelle les organes on-chip, c'est-à-dire au lieu de faire des études sur des êtres humains ou sur des animaux, on travaille maintenant sur de l'électronique et on arrive à faire le jumeau physique, numérique de l'être humain pour mettre au point des médicaments. Ça, c'est dans la banlieue lyonnaise. Vous avez en Bretagne des gens qui travaillent sur des projets absolument incroyables où on remet des voiles sur les cargos pour économiser jusqu'à 30% de kérosène ou de carburant quand ils traversent l'Atlantique. Imaginez, on revient au bateau à voile, c'est quand même un paradoxe, mais avec des voiles excessivement sophistiquées sur les containers, sur les porte-containers. Vous voyez, on a cette dynamique qui est en train de se créer dans le pays. Et c'est celle-là qu'il faut que les investisseurs privés doivent regarder. Parce que l'État vient sur 30 à 40% sur les projets d'investissement, mais il faut trouver le reste. Et la grande difficulté qu'ont les plus petites boîtes, c'est de dire « j'ai trouvé les investisseurs en complément de la subvention d'État ».
Et comment on fait pour aider ?
Ben, comment on fait ? Ben, on fait ce que vous êtes en train de faire. On fait de la communication, on explique aux gens qu'il faut bouger.
Mais comment on convainc les investisseurs privés à suivre ?
Bien, je pense que petit à petit, si vous voulez, quand on voit les résultats qu'on obtient, quand on voit les ouvertures d'usines, vous venez d'en parler, quand on voit les succès commerciaux d'un certain nombre d'entreprises...
Oui, que tous ne seront pas des vainqueurs, et ce qui est normal.
Ah oui, mais ça, si vous voulez, c'est le jeu de l'entreprise. Moi, j'ai eu un fonds d'investissement, il a performé avec des grands succès, des grands échecs. J'ai eu des entreprises, il y en a qui ont réussi, il y en a qui ont raté. Donc, je pense que le principe même de l'investisseur, c'est qu'il doit jauger son risque. Ouais. Mais quand vous avez un risque qui est déjà dérisqué de base, ouais, de 30 à 40% par une subvention d'État, ça mérite quand même le coup d'œil.
Vous retenez un dossier sur trois. Pour celles et ceux qui nous regardent, encore une fois, chef d'entreprise, TPE, PME, ETI, quand on vient vous voir, on a une réponse. Alors, j'ai vu ça. Il y a 6 mois de traitement, mais au bout de 2 semaines ou 1 mois, on dit déjà oui, a priori, vous, c'est non, ou vous, c'est oui.
Alors non, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un dossier qui est très synthétique, où là, on vous dit déjà si vous êtes éligible ou pas.
Alors, éligible au bout de ?
Au bout de 15 jours, un mois maximum.
Éligible ou pas ?
Et là, vous avez effectivement, en moyenne, 6 mois d'instruction, jusqu'à ce que vous, si vous avez gagné, si vous êtes non seulement éligible, mais vous passez le jury, au bout de 6 à 7 mois, vous avez votre subvention. Donc, c'est de l'argent quand même public. On est obligé d'y faire très attention.
Évidemment.
Il y a des jurys qui se réunissent, qui sont indépendants, qui prennent des positions. C'est un jury d'excellence. Donc, il y a des appelés, il y a des élus. Vous avez raison. 1 sur 3, c'est plus ou moins la norme. D'ailleurs, ça se durcit pour une raison simple, c'est qu'on a de plus en plus de dossiers. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas tenter sa chance. C'est comme le loto, hein. Ceux qui ne tentent pas leur chance ne gagneront jamais. Mais on a des dossiers de plus en plus de qualité et surtout d'entreprises inattendues. Je vous ai cité un certain nombre de territoires. Qui s'attendrait effectivement qu'au milieu du Cantal ou au fin fond de la Bretagne, dans le Finistère, vous ayez des boîtes qui, comme ça, sont en train d'avoir une nouvelle
dynamique. Ce dont vous êtes le plus fier sur
ça,
ce
dont je suis le plus fier, c'est que je m'aperçois que ça a un impact sur les territoires qui est incroyable et que ça donne une nouvelle dynamique aux villes moyennes. C'est-à-dire qu'avant, on avait l'impression que tout se passait dans les métropoles, et puis ouvrez les guillemets, ça allait ruisseler. Dans la réalité, ce n'est pas vrai. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans les villes moyennes. Il y a de plus en plus de jeunes, de jeunes familles qui s'installent dans les villes secondaires et qui développent en local des produits intéressants. Ça, c'est ce raccommodage avec les territoires dont je suis le plus fier. Puis après, ce dont je suis le plus fier, c'est que je vois tous les jours, que la France n'a pas décroché. Je vois tous les jours... que par rapport à la concurrence, nous avons des champions et on ne veut plus...
Dans quel secteur ?
Ben, dans les secteurs, je l'ai dit, de l'hydrogène, notamment décarboné, dans les secteurs du petit nucléaire, nous avons des boîtes d'exception dans lesquelles on fabrique en ce moment des réacteurs nucléaires qui sont beaucoup plus compacts que ces grands EPR dont on a aussi besoin pour d'autres raisons. Dans les secteurs des nouveaux matériaux, sur lesquels tout ce qui est recyclabilité et réflexion sur les nouveaux matériaux à base de graphène, de carbone, là, il y a une dynamique qui est en train de s'installer. Donc de très très nombreux secteurs. Alors je vous ai passé sous silence la révolution de la mobilité, on a lancé un projet que j'aime beaucoup qui s'appelle Extrême Défi, où on a dit à des designers et à des jeunes constructeurs, dire inventez-nous l'espèce de mobilité de demain, qui soit ni la voiture électrique, ni le vélo électrique. Et là, vous avez un foisonnement de projets qui aujourd'hui peuvent paraître farfelus, mais demain, qui peupleront nos villes. C'est-à-dire que une évolution du vélo cargo, une sous-dimensionnement de la voiture électrique, et finalement les gens disent mais pour l'usage que j'en ai par exemple en zone urbaine, ça me suffit largement. Donc une véritable énergie créative, industrielle, qui se heurte encore au scepticisme des investisseurs privés. Donc je réinsiste pour que les investisseurs privés aillent voir ce qui se passe et surtout fassent confiance au filtre France 2030. Quand nous on approuve un projet, quand nous on dit c'est un bon projet, il est déjà passé par tant de fourches codines qu'il peut avoir un crédit confiance un petit peu plus important que d'autres.
Ce qu'il faut améliorer dans France 2030 ?
Je pense qu'il faut améliorer, il faut encore simplifier l'accès au dossier, ça c'est important. Il faut qu'on soit beaucoup plus rigoureux sur le suivi, parce que ça nous permettra, si les objectifs ne sont pas atteints, parce que comme on fait un peu des tests, quand on confie de l'argent à quelqu'un qui innove, il peut réussir, il peut rater. S'il rate, ce n'est pas un échec, c'est une expérience. Par contre, l'argent qui restait pour le projet redevient disponible. Il faut très très vite qu'on identifie les capitaux qu'on peut réinjecter dans d'autres.
Bon, avant de se quitter, il y a une de vos sorties. La France, c'est un paradis pour les entrepreneurs. Certains vous diront que c'est vrai, d'autres vous diront que c'est totalement faux.
Oui, bah écoutez, je les
encourage. Un pays où il y a le plus de cotisations, un pays où il y a le plus gros impôt, la plus grosse dette, ou la bureaucratie, etc. Vous en ferez ricaner certains, vous savez.
Oui, bah, je les encourage à faire comme moi, avoir créé des sociétés dans à peu près une vingtaine de pays dans le monde, et s'apercevoir qu'effectivement, on a un modèle social, il faut faire avec. Moi, j'en rougis pas, je suis assez fier de notre modèle social. Il ne se financera que si on fait de la croissance et donc s'il y a de plus en plus d'entrepreneurs. Alors après, chacun peut jouer perso. Mais vous savez, finalement, quand on se retrouve tout seul face à un débiteur ou à un créditeur important américain, c'est là qu'on s'aperçoit qu'on a gagé sa maison, ses avoirs, ses actifs, etc. Et qu'on se dit, ah, finalement, la France, c'était pas si mal.
Comment vous le prouvez, en finale ? Comment vous le prouvez que c'est un paradis ? Comment vous l'étayez ?
Je le prouve parce que je l'ai vécu dans différentes circonstances internationales et que je m'aperçois.
Au-delà de se comparer aux autres.
Mais on a un accompagnement exceptionnel, par exemple, un détail, les chambres de commerce. Très dévalorisées, les chambres de commerce. Fondamentales pour plein d'entrepreneurs sur les territoires. On a évidemment la BPI, qui est un soutien permanent de toutes les entreprises. France 2030 pour l'innovation. L'accompagnement d'État et sa bienveillance est quelque chose de très important. C'est un état d'esprit qui a été mis en place, qui a été accéléré après 2017, mais qui précédait 2017, et qui fait qu'effectivement, on n'est pas tout seul. L'entrepreneur, il n'est pas tout seul dans la grande vallée des larmes en disant « je réussirai contre tout ». Alors, on peut réussir seul, mais c'est pas le type de l'espèce.
Ça n'empêche pas le poisson blanc. Ce qui n'empêche pas de vouloir débureaucratiser. Ah, mais non, mais, comme l'a annoncé
mais vous savez,
beaucoup de gouvernements.
L'intelligence artificielle, la numérisation, tout ça, ça va participer à un grand écrémage de cette bureaucratisation. Maintenant, il faut la faire accepter et il faut faire attention que c'est aussi des millions, de femmes et d'hommes qui ont des boulots quotidiens. Donc, aller provoquer en disant vous êtes tous coupables, messieurs et mesdames de l'administration, et vous engluez le système, c'est aussi caricatural que de dire vous, mesdames et messieurs les entrepreneurs, vous gagnez trop d'argent et vous prenez trop de risques. Je pense que le discours là, il n'est pas politique, il est pragmatique. Nous sommes une société, chacun y contribue, il faut qu'on soit plus efficace. Et ce travail d'efficacité, c'est certainement un des grands chantiers des années à venir en France.
Ça, c'est sûr. On aura l'occasion d'en reparler. Merci à vous pour cet entretien. Bruno Bonnel, secrétaire général pour l'investissement en charge, on l'a compris, de France 2030. Merci à vous.
Merci à vous.